On va continuer aujourd'hui dans l'étude de la deuxième lettre de Pierre. On approche de la fin, on arrive au chapitre 3, si vous voulez vous y tourner. Ce matin, j'ai été béni par une bonne nouvelle. Nous avons un ami pasteur qui est déjà venu ici à Nice, certains peut-être s'en rappellent. Il s'appelle Robert Case. Il est pasteur d'une église près de Seattle. Il a travaillé avec Wayne Taylor, le pasteur de l'église qui nous a envoyé ici. Et ça fait à peu près 25 ans que Robert, on va l'appeler Robert en français, a démarré une église dans la région, dans la banlieue de Seattle qui s'appelle Bellevue. C'est une banlieue assez riche. Et ça fait 25 ans qu'il essaye d'obtenir de bâtir une église. Ils ont pu acheter un terrain, mais pendant près de 20 ans, même plus de 20 ans, ils se sont réunis dans une école. Là-bas, il n'y a pas de séparation au nom de la laïcité. Et ce qui est bien, c'est que le département de l'enseignement peut recevoir des revenus d'autres associations, d'autres groupements. Ce serait une bonne idée en France d'aider à subventionner l'éducation nationale, les bâtiments, en les ouvrant au public. Mais non, ce n'est pas possible ici. Et ça fait 25 ans qu'ils se battent pour arriver à construire cette église. Enfin, on l'a vu cet été, elle est terminée. Et hier soir, elle a été dédicacée, présentée au Seigneur. Je crois que c'est un bel exemple de fidélité, 25 ans, de confiance en Dieu et de patience. À ce propos, on raconte, c'est pas Robert Case qui a raconté ça, c'est pas lui, mais il y avait un autre pasteur qui avait de gros besoins financiers pour construire son église, pour les nouveaux bâtiments de son église. Et il parlait au Seigneur dans la prière, et il lui disait, citant le psaume 50, « Seigneur, ta parole nous dit que le monde entier t'appartient, que tu possèdes le bétail sur des milliers de collines. » Pour toi, en fait, un million d'euros, c'est un peu comme un euro. Est-ce vrai, vraiment, Seigneur ? Oui, mon enfant. Seigneur, tu ne cesses de m'étonner. Il est dit dans ta parole qu'un jour est comme mille ans à tes yeux. Est-ce que c'est vrai aussi ? Pour toi, une seconde, c'est comme l'éternité, c'est vrai ? Oui, mon enfant. Au bout d'un petit moment, le pasteur, hésitant mais timidement, se lance et dit « Dis, Seigneur, tu pourrais me donner un million d'euros pour les bâtiments ?» Et le Seigneur lui répond « Certainement, mon enfant, attends juste une seconde. » Cette petite histoire nous rappelle que Dieu a une autre perspective sur les choses d'ici-bas que celle que nous avons nous-mêmes. Et on va voir que dans cette phrase, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour, elle se trouve dans le passage que nous allons voir ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité, elle nous encourage, elle veut nous faire grandir en toi, Seigneur. Merci parce que elle est la vérité, encore une fois, et nous, sur elle, nous pouvons bâtir nos vies, Seigneur. Nous voyons toutes les promesses faites par d'autres que toi, que ce soit les industriels, les futuristes, les hommes politiques, les philosophes. Toutes ces promesses, Seigneur, sont vaines, mais toi, tu tiens tes promesses et tu veux nous enseigner, tu veux nous rappeler quels sont tes projets pour l'humanité, Seigneur. Seigneur, aide-nous à saisir ces choses, à les comprendre. Aide-nous à à nous attendre à ton retour. C'est l'objet de cette étude ce matin. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas au courant que tu dois revenir. Et Seigneur, même si nous, certains d'entre nous le savons, nous en avons entendu parler, nous ne l'appliquons pas dans nos vies. On ne sait pas ni l'heure ni le moment, mais une chose est sûre, c'est que tu vas revenir. Seigneur, aide-nous à le comprendre d'une façon encore plus forte ce matin, grâce à ta parole. Et nous prions ces choses dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. De Pierre, une petite lettre, une petite épître, pour employer le terme un peu vieilli de certaines de vos Bibles. Elle s'intéresse à la croissance du chrétien. Comment croître dans notre vie chrétienne, dans notre connaissance de Dieu. On a dit que le but de notre vie, c'est d'aimer Dieu. C'est le plus grand commandement, aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est aussi connaître Dieu, c'est aussi la chose la plus importante. Connaître Dieu, c'est automatiquement aimer Dieu. Et dans les passages que nous avons vus, on a vu que pour la croissance du chrétien, le premier chapitre nous disait qu'en fait, nous devions pratiquer les vertus, les qualités chrétiennes. Il nous disait d'ajouter à la fois l'excellence morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, ce qu'a fait Robert, la piété, la fraternité et l'amour, l'amour agapé. Et puis le deuxième souci de Pierre pour favoriser cette croissance du chrétien, c'était de mettre en garde le chrétien contre les dangers. Et les dangers, c'est essentiellement des faux enseignements, des prétendus enseignants qui ont des motivations impures, qui veulent vous mettre sous leur coup pour profiter de vous. Et aujourd'hui, on aborde le troisième chapitre, et là, on va voir que une façon de croître, c'est vivre en s'attendant au retour imminent du Seigneur. C'est cet espoir qui est un espoir pour la croissance du chrétien, l'approche du jour du Seigneur. Lisons ensemble, on va lire les versets 1 à 9 du chapitre 3, donc 2 Pierre, je ne sais pas la page si vous avez la nouvelle Bible, mais j'espère que vous avez trouvé. Je lis dans la version second 21. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de raillerie. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Il nous invite, quelque part, Pierre, à se moquer des moqueurs. Il nous dit que, d'abord, on peut remarquer qu'en bon pasteur, il utilise la répétition et le rappel. Dans 2 Pierre 1, 3, 1, 13, pardon, il nous disait « Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. » Il n'hésite pas à rappeler des choses. On a souvent l'impression que ce qui est vraiment intéressant, c'est les choses nouvelles. Mais encore une fois, tout nous a été donné. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne. Et plus que de nouvelles découvertes, plus que de nouvelles choses, nous avons besoin que l'on nous rappelle les choses que l'on connaît déjà. On vit dans un monde où il faut toujours de la nouveauté. Même les produits, les lessives, les mayonnaises nous disent qu'ils sont nouveaux, que c'est amélioré. Et beaucoup vont répondre à cette soif de nouveauté qui est dans nos cœurs, qui est une bonne chose en soi, en nous promettant de nouvelles choses. Nous dire qu'en fait... La Bible a besoin d'être mise à jour. La Bible a besoin d'être mise au goût du jour. Quelle chose terrible que de mettre la Bible, qui est la parole de Dieu éternelle, essayer de l'adapter aux tendances, aux goûts, aux modes de notre époque. Pas besoin de rentrer dans certains détails, mais récemment, nous avons réformé la vision que la société peut avoir du mariage, que le mariage, maintenant, il est pour tous, ça veut dire un peu n'importe comment. Et le plus triste, c'est que certaines églises qui se disent chrétiennes ont décidé qu'en fait, c'était vrai, il fallait se mettre au goût du jour, et ne plus être aussi dogmatique avec des vieilles façons de voir les choses. La société avait changé, et que l'Église, si elle voulait encore avoir un impact sur la société, devait s'adapter. Sans réaliser qu'en fait, c'est l'Église qui change, au lieu que ce soit l'Église qui change la société comme Dieu le voudrait. Il leur fait allusion à la première lettre que nous avons étudiée avant d'aborder cette deuxième lettre de Pierre. Et il nous dit que dans l'une et l'autre, je fais appel à vos souvenirs. Donc il nous rappelle des choses pour éveiller en vous une saine intelligence. J'avais partagé que j'ai vu ce cauchemar où... Je crois que c'était de la part du Seigneur qui... Ce cauchemar, c'était que je m'étais endormi pendant le sermon. Moi qui suis supposé amener la parole de Dieu, tout ce que je me rappelais, c'est que je m'étais réveillé après en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » Les gens étaient... Vous étiez très aimables, vous ne me rappeliez pas qu'en fait, je m'étais endormi pendant 30 minutes et vous aviez attendu que je me réveille. C'est drôle et en même temps, je l'ai vécu comme un réveil de la part du Seigneur de dire que c'est sérieux ce qu'on fait. le regard et la parole de Dieu, qu'on ne peut pas prendre ça à la légère, qu'elle est source de vie, qu'elle est... La parole dit même dans un psaume que le Seigneur a plus de soucis pour sa parole que pour sa réputation. Bien sûr, les deux sont liés, mais dans la culture hébraïque, le nom d'une personne, aujourd'hui encore, comment tu m'appelles, toi ? C'est un scandale si on dit du mal de vous, de votre mère. Il y a cette fierté dans le nom, et il dit que Dieu, sa parole est encore plus importante que son nom. Alors c'est, encore une fois, les deux sont liés, et ça ne veut pas dire que son nom n'est pas à respecter, mais sa parole, elle occupe une place incroyable. Il fait appel à des souvenirs, il nous rappelle des choses. Parce que il savait que les personnes auxquelles il s'adressait avaient eu des connaissances bibliques, Que ces personnes écoutaient la parole de Dieu si elles ne la lisaient pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 000 versions de Bible différentes, on ne l'avait pas sur Internet, sur nos smartphones et sur nos iPads, nos tablettes. Mais il savait que ces personnes avaient des connaissances bibliques. Est-ce que vous vous assurez d'avoir des connaissances bibliques en lisant la parole régulièrement, tous les jours si possible, deux fois par jour si vous le pouvez? Ça fait moins de volume à lire en un seul coup, ça permet plus de temps pour digérer. Et je me parle à moi-même. Je me sens, particulièrement en tant que pasteur, responsable de lire la parole, de la lire au moins une fois tous les ans. Mais c'est vrai que bien des fois, ça peut devenir machinal parce que j'ai l'esprit occupé à quelque chose, où j'ai des soucis qui font que on peut lire sans lire. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous lisez quelque chose, mais si on vous demande qu'est-ce que vous venez de lire, il veut faire appel à nos souvenirs, on va voir de quoi il s'agit, pour éveiller en nous une saine intelligence. Toujours cette idée d'éveil, de ne pas s'endormir, d'être attentif, d'être à l'écoute, d'être prêt à agir, d'être prêt à répondre à des commandements que le Seigneur nous donnerait. Une saine intelligence ou une intelligence claire, c'est une expression que le philosophe Platon utilisait en grec, et c'était une raison pure qui n'était pas pollué par la séduction des sens. Dieu nous a donné la faculté de raisonner, il nous a donné aussi des émotions, mais lorsque l'on raisonne, et Pierre, Paul particulièrement, pouvait raisonner de façon très précise. Et Pierre veut là nous réveiller, éveiller en nous une intelligence qui comprend les choses, une intelligence qui est capable de raisonner avec tous, sans a priori, mais sur des faits et sur de la logique. Verset 2, « Afin que vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes. » Donc ça, c'était une référence à l'Ancien Testament. Ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur, parlant de Jésus, enseigné par vos apôtres. On peut lire ça et dire, c'est du langage pieux, les prophètes et les apôtres. Non, en fait, c'est fondamental pour comprendre que la parole de Dieu, c'est à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le commandement du Seigneur et Sauveur, ça fait référence au Nouveau Testament, ce qui est enseigné par les apôtres. C'est les apôtres qui ont écrit les évangiles. Marc n'était pas un des apôtres, mais il était inspiré par Pierre. qui lui était un apôtre. Donc le commandement du Seigneur, un commandement, ce n'est pas quelque chose qu'on lit pour trouver une jolie illustration sur une carte postale. Je prends une photo d'un joli coucher de soleil et ah tiens, ce verset, ça serait joli ensemble. Non, un commandement, c'est quelque chose que l'on reçoit, que l'on apprend pour y obéir. Et donc, il veut nous rappeler l'enseignement de toute la Bible. Et encore aujourd'hui, il y a des églises où on ne parle pas de l'Ancien Testament, où on fait des références lorsqu'on les trouve dans le Nouveau Testament, et même des églises qui se disent néo-testamentaires. On n'est pas dans la doctrine de l'Ancien Testament judaïsant, judaïque, on est passé à la Nouvelle. Non, en fait, tout se tient. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Il y a toute une histoire de la communication de Dieu avec son peuple, ses élus, ceux qui vont être sauvés, qui seront avec lui pour toujours. Et ça n'a pas commencé avec les évangiles, ça a commencé avec la Genèse, le livre de Job, qui est probablement le plus vieux des livres. Mais c'est toute la Bible que nous devons étudier. Des fois, c'est le style, la façon d'écrire ou le genre de littérature, ça peut être plus difficile à saisir. Les psaumes ne sont pas toujours évidents à commenter, à interpréter, à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont comprises. Et c'est l'Esprit Saint qui va être là pour nous révéler ce qui est dans la parole. Il va nous parler du retour de Christ. Il dit qu'il y a des gens qui viendront. Donc il fait une prophétie sur le fait que des gens vont se moquer des prophéties. Et donc lorsque quelqu'un se moque des prophéties chrétiennes, vous pouvez leur dire, vous êtes la preuve, vous étiez prophétisé par Pierre, que vous alliez critiquer les prophéties. Il va venir des moqueurs, des gens qui se moquent, des gens qui ne prennent pas au sérieux la foi chrétienne et toutes les promesses, et particulièrement la promesse de son retour. La promesse qui est déjà présente dans Daniel. Daniel, le dernier des grands prophètes, après Ézéchiel, Daniel 7, 13. Je vous dis, j'ai une nouvelle Bible, second 21, les pages ne sont pas encore, n'ont pas encore été toutes ouvertes. Daniel 7, 13. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Ça, c'est la promesse du retour que l'on retrouve dans Matthieu. Donc ça, c'était les prophètes dont on parlait, les prophètes, les saints prophètes qui ont prononcé des paroles autrefois. Mais le commandement du Seigneur, on peut regarder Matthieu, l'évangile de Matthieu, le premier des évangiles, la façon dont on s'est présenté. Matthieu 25, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Ça, c'est tout un passage, on ne va pas le lire en entier, mais c'est aussi dans le livre des Actes, c'est peut-être le passage que vous connaissez le mieux, le premier chapitre du livre des Actes, jusqu'après l'évangile de Jean. Il nous dit au verset 10 et 11, alors c'est Jésus qui est ressuscité et c'est le récit de son ascension. Et Jésus, on va lire à partir du verset 6. « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et là, verset 9, après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Cette prophétie, cette constante de la parole, c'est le retour de Christ. J'ai noté des statistiques assez impressionnantes. Ce retour de Jésus-Christ, il est mentionné pas 5 fois, pas 10 fois, pas 100 fois, il est mentionné 1845 fois dans la Bible. Vous pouvez noter ça, 1845 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, 17 livres sur 38 parlent de ce sujet, abordent ce sujet. Il en est question 318 fois dans le Nouveau Testament. 318. Un verset sur 30 parle du retour de Christ à la fin des âges. Dans le Nouveau Testament, 7 chapitres sur 10 parlent de ce sujet. Et pourtant, beaucoup de chrétiens, encore une fois, n'ont aucune idée de ce dont il s'agit. C'est quelque chose de clé qu'il faut comprendre. Jean disait, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque le Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'idée que Jésus va revenir et que de le voir, ça va nous transformer, ça nous aide à croître dans la pureté, dans la sainteté. Verset 3, il y aura donc ces moqueurs. Et ça, il en est question dans 1 Timothée, dans 2 Timothée, dans Jude. Des gens qui se moquent. Des guignols de l'info sur les chrétiens. Des gens qui trouvent que les chrétiens sont bien arrogants pour penser que les musulmans, les bouddhistes doivent cesser leur religion pour être sauvés. et je regardais une petite vidéo d'un pasteur qui disait qu'enfin, c'est vrai, c'est, ça peut sembler être le comble de l'arrogance que de dire qu'à des milliards ou des millions de personnes, que leur religion va les emmener en enfer, qu'ils ne sont pas sur le chemin du salut, et que ça peut vraiment être une attitude pleine d'orgueil et d'arrogance. Et il remarquait, sauf si c'est la vérité. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus est le seul chemin qui mène au Père, le seul chemin qui mène à Dieu? Et si vous le croyez, à ce moment-là, l'arrogance, c'est de se taire, de ne rien dire à ces milliers de personnes que nous voyons autour de nous et de ne jamais leur dire qu'ils font fausse route. Et bien sûr, les moqueurs aujourd'hui nous disent vous parlez du retour de Christ, et à l'époque déjà, Jude dira qu'il y a des gens qui font ça, dans Jude 18, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, ou d'autres versions disent les pères, ça peut être les patriarches de l'Ancien Testament, ça peut être les responsables des débuts de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, ça peut être simplement tous les ancêtres, c'est une bonne traduction, tous ceux qui sont venus avant, ils sont morts, et tout reste dans le même état. Il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu d'arrivée du Seigneur. On parlait du retour du Seigneur, mais on ne voit rien du tout. Alors arrêtez de nous casser les pieds avec le retour de votre Seigneur. Ils ajoutent, c'est une idée qui fonde la théorie de l'évolution, l'idée que l'univers, la création, est stable et que les phénomènes du passé continuent de se reproduire et se continueront dans le futur sans jamais qu'il y ait un bouleversement. Il y a un mot que j'ai du mal à prononcer, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'uniformitarianisme. C'est uniforme. Les changements, il n'y a pas des ruptures, il n'y a pas des catastrophes. Maintenant, il y a des théories mathématiques qui parlent justement des catastrophes et des déclins. Mais à l'époque de l'évolution, tout se produit au même rythme. Les fossiles continuent à se fossiliser. Est-ce que vous avez déjà vu en vous baignant là sur la prom avec un masque, est-ce que vous avez vu déjà des poissons qui étaient un peu en pierre? Ils bougeaient encore un peu de la queue, mais ils avaient un peu de béton sur une nageoire. C'est ridicule. Mais c'est la théorie de l'évolution a besoin d'utiliser cette idée qu'il y a un changement qui se reproduit et qui ne change jamais. Ces moqueurs, en fait, ils déclarent que, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Et si jamais il y avait un Dieu, on voit bien, il est clair qu'il n'intervient pas puissamment dans les affaires du monde. Pierre va leur rappeler deux événements catastrophiques, deux événements singuliers. D'abord, deux dans le passé, la création. La création. Même la science moderne reconnaît qu'il y a eu un Big Bang. Qu'avant il n'y avait rien et que maintenant il y a quelque chose. C'est difficile à expliquer s'il n'y a pas Dieu. peut trouver des tas de théories, mais la Bible, le récit biblique est bien plus logique, bien plus rationnel que les élucubrations des scientifiques les plus respectés aujourd'hui. Des gens qu'on invite souvent sur les plateaux de télé, qui sont des gens sympathiques, respectables par ailleurs, il faut voir des fois l'invraisemblabilité, aujourd'hui uniformitarianisme et invraisemblabilité de leur théorie est flagrante. L'univers, la forme de l'univers, est-ce qu'il est infini? Est-ce qu'il y a un mur? S'il y a un mur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors ils ont des théories que c'est comme ces cactus qui ont une partie qui grimpe et puis après il y en a une autre comme ça. Et puis ils parlent de cactus pour expliquer ça. Puis après ils parlent des ballons qui, quand on fait des animaux avec des ballons, les clowns font ça, que ça se réduit, que ça se contracte, ils n'en savent vraiment rien du tout. La création par la parole de Dieu. Dieu dit et ce fut créé. Le deuxième événement singulier, catastrophique, c'est le déluge, la destruction par l'eau. Ça, on lit ça dans la Genèse, on va pas s'y tourner juste pour lire Genèse 7, 21. Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. L'idée qu'il y a eu, d'abord la création, c'est contre l'idée que tout se reproduit toujours au même rythme. Il y a eu un événement singulier. Et puis le déluge, c'est un événement singulier aussi. Les fossiles, encore une fois pour revenir à eux, ne peuvent pas s'expliquer sans le déluge. Il a fallu que ça se fasse rapidement, parce que sinon les animaux qui meurent, ils sont mangés par les animaux charognards, par les vers. Il y a la décomposition des bactéries. Et il faut donc que ces choses, ces restes d'animaux soient calcifiés rapidement. Il n'y a pas de possibilité d'une lente fossilisation des choses. Encore une fois, on ne voit pas de fossiles se former maintenant. On a récemment vu des caméras explorer ce qui restait du Titanic. On n'a pas vu d'hommes fossilisés là-bas dessous. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été mangés par des animaux et des tas de créatures, des bactéries, etc. Il rappelle des événements catastrophiques dans le passé, causés par Dieu, et puis aussi dans le futur. Verset 7, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ça, c'est le récit de la création, je vous renvoie à la Genèse. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. C'est le déluge. Par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu réservé pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Ça, c'est... Vous vous souvenez que Dieu avait donné l'arc-en-ciel comme symbole du fait qu'il n'allait jamais faire périr la terre par l'eau de nouveau. Mais là, et dans beaucoup de passages, il est question dans l'Apocalypse et plein d'autres passages, que il va y avoir la dissolution, la désintégration des cieux et de la terre par le feu. À l'époque où ces gens écrivaient, où Pierre écrivait, mais même il y a une centaine d'années, disons 150 ans, parce qu'on est déjà au 21e siècle, on ne pouvait pas imaginer une destruction de grande échelle par le feu. Certes, il pouvait y avoir des incendies dans des forêts, dans des savanes, mais pas de temps qu'on avait connu Hiroshima et Nagasaki. La terrible puissance de la bombe atomique utilisée comme arme la plus redoutable, une destruction par le feu. Il y a un passage très intéressant dans 1 Colossiens 1, 17 qui dit que le monde est soutenu ou tenu par Christ, par la parole de Dieu, par Jésus en fait, par Christ. Colossiens 1, 17. Parlant du Fils qui est l'image du Dieu invisible, il dit « Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui, ou tout est tenu par lui. » Et certains voient là une description de cette force que les scientifiques recherchent, parce qu'ils ne comprennent pas comment les atomes peuvent rester ensemble. Il y a des forces négatives et des forces positives qui s'équilibrent, mais dans le noyau même, il y a des charges positives qui n'explosent pas. Le plus contre le plus devrait exploser, devrait s'éloigner. Alors, on va pas faire un cours de physique nucléaire, mais sachez que pour beaucoup, c'est ce 1 Colossiens 1, 17 qui explique qu'il y a cette puissance de Christ qui tient le monde. On a peur des fois que les hommes fassent péter la planète. Cette promesse nous dit que ce n'est pas l'homme qui va faire péter la planète, c'est Jésus qui va ouvrir la main, relâcher cette puissance qui tient tous les atomes ensemble, tous les noyaux des atomes, tous les nucléides. Ça va être une dissolution, une désintégration des cieux et de la terre. Et puis il explique en fait, quand ils vous disent rien ne change, en fait dans l'histoire il y a des choses qui sont arrivées, qui étaient singulières, comme la création, comme le déluge, et puis dans le futur il y aura cette destruction par le feu. Mais lorsque les gens vous disent, eh bien ce retour du Christ c'est pour quand? C'est là qu'il nous dit qu'il faut réaliser que le Seigneur a un calendrier différent du nôtre. 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Alors, ce n'est pas une formule secrète pour calculer les âges, et etc. Ça veut dire simplement que Dieu est en dehors du temps. Dieu n'est pas coincé comme nous le sommes par le temps qui passe, par cette linéarité. Nous sommes prisonniers de ce concept du temps. Sans doute pour de bonnes raisons, mais Dieu n'est pas astreint à cette dimension. Il est éternel, ça ne veut pas dire qu'il a commencé il y a très longtemps, il va durer très longtemps, ça veut dire qu'il est en dehors de ça. Si vous avez fait des études un peu de maths, on représente souvent le temps ou de physique par une ligne droite tracée sur une page ou sur le tableau. Et on appelle cette ligne la ligne du temps. Et en fait, pour comprendre un peu ou pour avoir une idée de ce que c'est que le caractère éternel de Dieu, il faut que, en contemplant cette ligne du temps, Dieu il pourrait être représenté par la page entière sur laquelle la ligne est tracée. Ou alors il y a l'analogie dont j'ai parlé souvent. Pour nous, le présent, c'est quand on est au mois de juillet sur le bord de la route et qu'on voit passer le Tour de France. On voit tel coureur, on le voit en ce moment, c'est le présent. Pour moi, le futur, c'est les coureurs qui vont arriver plus tard, ils ne sont pas là encore, ceux qui sont à la traîne. Le passé, c'est ceux qui ont déjà roulé devant moi et qui sont plus loin. Donc j'ai le passé, le présent, le futur qui arrivent. Mais si je monte dans l'hélicoptère de France 3, je peux voir toute la route avec à la fois les attardés, ceux qui passent devant moi, et puis ceux qui sont en avance dans l'échappée. Ça, c'est juste pour essayer de nous abstraire un peu, de voir qu'en fait, il suffit d'être dans une autre dimension pour que le temps, il ne prenne plus la même réalité, entre guillemets, et qu'un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Puis il nous livre la raison de ce retard ou de ce délai que prend Dieu avant de revenir. Il nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, c'est pas du retard, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Son délai, ce retard, c'est un marque d'amour, c'est une marque de grâce. Il attend que le plus grand nombre d'hommes et de femmes viennent au salut, à la repentance. Ce n'est pas du laxisme ou de l'indifférence, c'est de l'amour. Dieu nous disait dans Ézéchiel 33, 11, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Paul nous dit la même chose dans 1 Timothée 2, 3, 4. Si vous voulez mémoriser ce verset, l'adresse est facile. Timothée 1, 2, 3, 4. 1 Timothée 2, 3, 4. Chapitre 2, verset 3 et 4. « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La repentance, c'est se détourner du péché pour aller vers Dieu. C'est réaliser que je fais fausse route, je veux aller à Cannes, mais je vois que la prochaine sortie, c'est Menton, alors que je suis parti de Nice. Je peux continuer, me retrouver à Gênes. Je peux aller visiter les Cinque Terre, mais je ne vais pas aller à Cannes. Si je veux aller à ma destination, je dois faire demi-tour et repartir vers la bonne direction. La repentance, c'est ce changement d'esprit qui nous dit j'allais vers le péché, je reconnais que c'est pas la bonne direction. Je sors de ça, je fais demi-tour et maintenant je vais vers Dieu. Et Dieu veut que tous les hommes fassent cette expérience. Je suis content que Dieu ne soit pas revenu, Jésus ne soit pas revenu il y a 50 ans. J'étais déjà vivant, mais j'aurais été perdu pour l'éternité. Je le remercie de m'avoir attendu, d'avoir fait que je puisse avoir ma conversion à lui. C'est quelque chose que les moqueurs ne réalisent pas. En fait, il leur donne du temps. Dieu donne du temps aux moqueurs. Lorsque les gens vous disent « Oh, le retour du Christ, c'est pour bientôt », rappelez-leur que c'est un signe d'amour de Dieu qu'il veut leur donner du temps. Il y a ce verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » C'est le jugement qui va arriver. C'est le jugement. Mais à chaque fois qu'il y a un jugement dans la Bible, Dieu qui arrive, Dieu nous prévient. Et Dieu veut prévenir les moqueurs, Dieu veut prévenir les chrétiens, savoir qu'il y a son retour qui va venir, on ne sait pas quand, on y reviendra, mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En général, un voleur, il ne vous envoie pas un texto, il ne vous envoie pas un message Facebook, un email, un coup de téléphone pour dire « tu es bien parti, je peux venir ». Non, il vient quand vous n'y attendez pas. Et juste pour terminer, et on reverra ça la prochaine fois, il y a plusieurs termes. Il y a le jour du Seigneur, c'est cette période de jugement, un jour. Comme un jour, ça peut être comme 1000 ans. Un jour, ça peut désigner aussi en hébreu une période de jugement qui culmine avec le retour de Christ sur la terre. Plus loin, on verra qu'il est question du jour de Dieu. C'est la période quand tout mal a été jugé et que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, peuvent apprécier les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il est question aussi, par ailleurs, du jour de Christ. Ça fait référence à la venue de Jésus-Christ qui vient rechercher son Église. Mais ça, on le verra la prochaine fois. Est-ce que vous vous attendez au retour de Christ ? J'ai un pasteur qui avait un ami, un pasteur niçois, qui est à la retraite maintenant, il connaissait un jardinier qui travaillait dans une belle villa à Villefranche-sur-Mer, une grande, énorme villa. Et les propriétaires ne lui disaient jamais quand ils allaient venir. Il habitait sur place, il prenait soin du jardin, il s'occupait des bâtiments. Mais à tout moment, il s'assurait que tout était en ordre, qu'il y avait de la nourriture dans le frigidaire, que le jardin était, la pelouse était tondue, que les fleurs étaient bien entretenues. Et c'est parce qu'il ne savait pas l'heure exacte qu'il avait cette attitude d'être toujours prêt. Et ça doit être une image pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons prêts à tout moment pour son retour. J'aimerais qu'il vienne maintenant, parce qu'en général, quand je suis en train de prêcher, je pense à lui, je ne commets pas des péchés horribles. Mais il peut arriver le matin, quand vous n'êtes pas encore réveillé, soyons prêts. Amen. Seigneur, merci pour ce rappel. Merci de nous aider à vivre avec cette perspective, Seigneur. Nous voulons être conscients que tu peux revenir à n'importe quel moment. Tu peux nous appeler vers toi à n'importe quel moment aussi, Seigneur. Tu nous l'as rappelé avec le départ de deux amis récemment, Jean-Bernard, JB, et aussi de Betty Fortenberry, qui devait être avec nous aujourd'hui, Seigneur, mais que tu as rappelé jeudi dernier, Seigneur, dans un terrible accident. Aide-nous, Seigneur, à vivre en ta présence, à être conscient de ta présence jour après jour, moment après moment. Te remercions pour ce rappel, Seigneur, qui nous permet d'être prêts à tout moment. Aide-nous à l'être, Seigneur, vraiment. Par la puissance de ton esprit, nous te le demandons. Amen.